Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le dimanche de Pâques. Le sabbat s'étant écoulé, Marie de Magdala et Marie, celle de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums afin d'aller oindre Jésus. Tôt le matin, le premier de la semaine, elles viennent au tombeau au lever du soleil. Elles se disent entre elles,
« Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?»
Levant les yeux, elles voient que la pierre a été roulée. C'est qu'elle est fort grande. Entrant dans le tombeau, elles voient un jeune homme assis à droite, vêtu d'un vêtement blanc. Elles sont saisies d'effroi. Celui-ci leur dit,
« Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus, le Nazarénien, le crucifié. Il s'est réveillé du sommeil de la mort. Il n'est pas ici. C'est ici le lieu où ils l'ont déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. »
Elles sortent et s'enfuient du tombeau. Elles sont en effet saisies de tremblement et hors d'elles-mêmes. Elles ne disent rien à personne car elles ont peur.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Alors voilà 8 versets qui termine le récit de l'Évangile selon Marc. 8 versets qui viennent mettre un terme à la vie terrestre de Jésus. 8 petits versets qui, pourtant, selon la foi des disciples de Jésus, décrivent le point tournant de l'histoire. La mort et le mal sont vaincus. Ce texte, il vient faire suite au long récit de la passion et de la mort de Jésus qui occupe les chapitres 14 et 15 de Marc. Le récit de la Passion commence d'ailleurs par une sorte de répétition de l'ensevelissement. Une femme répand un flacon de parfum sur la tête de Jésus, et c'est Jésus lui-même qui évoque sa mort.
Elle a fait ce qui était en son pouvoir. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement.
Le chapitre 15 va s'achever sur la description de cet ensevelissement de Jésus. La mort a bien eu lieu, le cadavre est dans un tombeau et personne ne semble attendre une résurrection.
Joseph d'Arimathée eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Il fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le rocher. Et il roula une pierre à l'entrée du tombeau.
Cet ensevelissement se fait le vendredi soir, la veille du Shabbat. Le récit précise que des femmes se trouvent là pour bien voir où Jésus est enseveli.
Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent où il est déposé.
Ces femmes pourront donc venir seules, afin de pouvoir oindre le corps de Jésus dès la fin du Shabbat. On voit que ces notations préparent notre récit.
Le sabbat s'étant écoulé, elles achètent des parfums.
Normalement, cette toilette funéraire était faite avant l'ensevelissement. Mais l'heure était trop tardive, le vendredi soir, et le repos du Shabbat allait commencer. C'est pourquoi, dès la fin du repos de ce Shabbat, le samedi donc, lorsque la première étoile est apparue dans le ciel, les femmes vont sortir pour aller acheter les parfums. Il ne s'agira pas d'un embaumement proprement dit, tel qu'on le connaît dans la mode égyptienne, mais bien plutôt, tout simplement, d'onction parfumée sur le corps. Cette démarche des femmes décrit ce qu'est leur préoccupation, venir honorer un cadavre. Pour elles, la mort sur la croix a mis un terme à l'aventure qu'elles ont vécue avec le Maître. Et en embaumant Jésus de parfum, elles veulent avoir un dernier contact avec lui. Elles veulent rendre un dernier service à ce Maître qu'elles ont aimé et servi.
Il y avait Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le Petit et de Josette et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée.
Suivre et servir sont des verbes qui décrivent le fait d'être disciple d'un rabbi.
Tôt le matin, le premier de la semaine, elles viennent au tombeau au lever du soleil.
Le jour qui suit le sabbat est le premier de la semaine. Il correspond à notre dimanche d'aujourd'hui. Dans le même verset, nous avons deux notes qui sont apparemment contradictoires. Tôt le matin, c'est-à-dire vers 3 ou 4 heures, et au lever du soleil. Mais on peut penser que le lever du soleil est ici une note symbolique. Ce retour du soleil après la nuit, marquant la victoire de la lumière sur les ténèbres, eh bien ce retour du soleil annonce déjà la résurrection.
Elles se disent entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?»
Le tombeau est une sorte de cavité creusée dans le roc ou aménagée dans une grotte. À l'intérieur, il y a des banquettes de pierre ou bien des alcôves qui sont destinées à recevoir le cadavre. L'extérieur est souvent blanchi à la chaux afin de pouvoir reconnaître l'utilisation qui est faite de la grotte et éviter ainsi de contracter une impureté légale au contact du cadavre. Le contact avec la mort demande en effet qu'on se purifie par des bains afin de pouvoir se présenter à la prière de la synagogue en étant pur. La question que se posent les femmes peut apparaître un peu tardive. Elles auraient dû prévoir beaucoup plus tôt la difficulté d'ouvrir le tombeau, d'autant qu'il fallait souvent plusieurs hommes pour déplacer ces pierres. Mais on peut voir dans cette question le moyen de prévoir une objection parce que la pierre ne peut être facilement déplacée. L'ouverture du tombeau et le vol possible du corps ne peuvent être le fait des femmes. Et donc, la disparition du corps ne pourra être que l'œuvre de Dieu. Le récit de Matthieu va exprimer cela avec une image symbolique.
Voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit.
Les femmes se trouvent devant une présence inattendue.
Entrant dans le tombeau, elles voient un jeune homme assis à droite, vêtu d'un vêtement blanc.
Et cette rencontre imprévue provoque chez elles un émoi sacré. Dans le langage biblique, cette image d'un homme vêtu de blanc signifie qu'on se trouve en présence du divin. Le blanc est le signe de Dieu. Le vêtement blanc, on se souvient, était celui de Jésus lors de la transfiguration. Et ici, il symbolise probablement la victoire de Jésus sur la mort. Dans le livre de l'Apocalypse, on dira des martyrs victorieux qu'ils sont revêtus de robes blanches. Les autres récits évangéliques vont se servir d'autres figures. Luc parle de deux hommes que certains commentateurs pensent pouvoir identifier comme étant Moïse et Élie qui se trouvaient à la transfiguration. Jean parle, lui, de deux anges et Matthieu préfère dire tout simplement l'ange du Seigneur. Marc ajoute que l'homme se trouve assis à droite et certains commentateurs disent que cela peut évoquer la place du Messie qui est maintenant à la droite de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus avait annoncé au grand prêtre qui lui demandait s'il était le Messie.
« Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. »
Elles sont saisies d'effroi. Le mot employé par Marc est le même que celui qui traduit l'effroi de Jésus et des apôtres devant la perspective de la mort.
Ils étaient en route montant à Jérusalem et Jésus marchait devant eux et ils étaient effrayés. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commence à ressentir effroi et angoisse.
C'est aussi le même réflexe qu'on trouve devant Jésus transfiguré.
C'est qu'ils ne savaient que répondre, car ils étaient saisis de frayeur.
Cette réaction d'effroi traduit dans la Bible la présence du sacré, du divin. Et comme dans tout récit d'apparition divine, le messager vêtu de blanc rassure « Ne vous effrayez pas ». On retrouve cela lors de la transfiguration.
Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, Relevez-vous et n'ayez pas peur. »
Souvenons-nous que les disciples ont eu aussi la même réaction devant Jésus marchant sur la mer.
« Tous le virent et furent troublés. Mais lui aussitôt leur parla et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. »
Cette réaction des femmes nous décrit donc le sens profond de ce qui est vécu. Le tombeau vide, la présence du messager, évoque le caractère sacré de la mort. Oh certes, la mort est toujours, reste toujours la porte vers l'inconnu, mais elle est ici montrée comme le passage vers une vie qui transcende le terrestre, l'irruption du Très-Haut dans l'ici-bas. Et c'est pourquoi elle déclenche dans le cœur de celui qui en est témoin un frémissement qui n'est pas la peur coutumière, mais un sentiment de profonde révérence en présence du sacré.
Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il est ressuscité.
Tout le message pascal est dans le rapprochement de ces deux mots. Le crucifié est ressuscité. Nous retrouvons ici les termes traditionnels de la prédication des débuts de l'Église. Donnons-en quelques exemples puisés dans les discours de Pierre qui se retrouvent dans les Actes des Apôtres.
Israélite, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, vous l'avez livré en le faisant crucifier, mais Dieu l'a ressuscité. Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité des morts. Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous.
On trouve aussi dans ces textes l'appellation donnée à Jésus et qui varie, celle parfois de Nazoréen ou de Nazarénien. Eh bien, cela veut sans doute marquer l'identité entre le ressuscité et l'homme Jésus qui a vécu à Nazareth. Nous sommes ici en présence du cœur de la foi des premiers chrétiens. Jésus le Nazarénien, le crucifié ressuscité, le messager divin n'a dans le fond pas d'autre parole que celle de la communauté chrétienne, la première communauté. Une affirmation tranchante, sans preuve, sans explication, d'une réalité qui est exorbitante et qui est présentée comme un fait accompli. Il est ressuscité. À travers cet homme vêtu de blanc, le message vient de Dieu lui-même. Le fait de la résurrection n'est pas une déduction humaine devant un tombeau vide. La résurrection ne découle d'ailleurs pas du fait que le corps n'est plus là. C'est bien plutôt parce que Jésus est ressuscité qu'il ne faut plus chercher le cadavre de son corps.
Vous cherchez Jésus, le Nazaréen. Il n'est pas ici.
Marc invite ces femmes en recherche à croire en la parole de l'homme vêtu de blanc, comme nous le sommes d'ailleurs invités nous-mêmes. Car la foi ne demande pas de voir. Elle fait confiance en la parole de Dieu. Regardons les oppositions, plutôt les contrastes du récit. Ils nous font voir qu'une transformation radicale s'est opérée. D'une part, nous avons le sabbat est passé, et de l'autre, le premier jour de la semaine. D'une part, elles vont à la tombe, un trou noir. De l'autre, le soleil est levé. Qui nous roulera la pierre? C'est un tombeau fermé. Et voilà que la pierre est roulée et le tombeau est ouvert. Elles entrent pour embaumer un cadavre et elles voient un jeune homme vêtu de blanc. Vous cherchez le crucifié, il est maintenant le ressuscité. Par cette manière de décrire l'événement pascal, Marc veut sans doute nous initier à entrer dans un monde nouveau. Le premier jour de la semaine, le lever du soleil, peuvent également évoquer le récit de la création.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Il y eut un matin, premier jour.
Ne sommes-nous pas en effet devant une nouvelle création? Le soleil levant est le Christ, lumière qui se lève sur le premier jour d'une nouvelle création. En ce matin de Pâques, il y a un nouveau commencement du monde. Les femmes n'ont pas tant découvert un tombeau vide qu'elles ont entendu un message venant de Dieu. Oui, la rencontre de Jésus ressuscité n'est pas au bout de nos démarches humaines. C'est Dieu lui-même qui intervient et qui va dépasser nos attentes. Il va bouleverser toutes nos idées humaines. Il est vain maintenant de rechercher un cadavre. Il n'est plus possible de s'emparer de lui pour enfermer Jésus dans la prison du passé. Nous sommes désormais en temps de résurrection.
Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit.
Et cet événement ne doit pas rester ignoré. Rien n'est arrivé de caché sinon pour venir au grand jour, disait Jésus. Pierre va être l'un des témoins privilégiés de la résurrection. Et pourtant, nous connaissons son reniement. Mais cet échec va l'aider à approfondir sa relation avec Jésus relevé d'entre les morts. Le regard de tendresse et de pardon du Maître avait déjà sorti Pierre de ses culpabilités, de ses angoisses. C'était pour lui une forme de résurrection. Maintenant, Pierre, comme le premier des 12, va être le témoin autorisé de cette victoire de Jésus sur la mort, comme le dira le récit des Actes des Apôtres.
Sans avoir trouvé aucune raison de le mettre à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire périr. Mais Dieu l'a ressuscité des morts et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, eux qui sont maintenant ses témoins devant le peuple.
Nous constatons l'importance des premiers témoins de ce moment crucial de la vie de Jésus. Paul, même s'il se donnera le titre d'apôtre, fera toujours référence au témoignage des 12, parce qu'il n'a pas connu lui-même de son vivant terrestre Jésus.
Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Christ est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12.
C'est en effet en Galilée que Jésus verra ses disciples. On sait que c'est dans cette région, qui est au nord de la Palestine, que Jésus s'était d'abord manifesté.
Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu.
Ce territoire, où se trouvaient beaucoup d'étrangers qui étaient des païens, était appelé la terre des nations, la Galilée des païens, le pays de l'ouverture au monde. Avant même son arrestation, Jésus avait dit à ses apôtres l'espérance de pouvoir se regrouper en Galilée.
Ils sortirent pour aller vers le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Tous vous allez tomber. » Il est écrit, « Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
De même que l'Évangile était parti de la Galilée, c'est encore de là qu'il devra repartir pour aller vers tous les peuples. Loin de se terminer à la croix, l'aventure de l'Évangile ne fait que commencer.
Elles sortent et s'enfuient du tombeau. Elles sont en effet saisies de tremblements et hors d'elles-mêmes. Elles ne disent rien à personne, car elles ont peur.
Au tombeau, les femmes sont complètement dépassées par l'événement qu'elles vivent. Elles sont hors d'elles-mêmes, nous dit l'Évangile. Et ce « hors d'elles-mêmes » traduit un mot grec « extasis ».« Extase », un mot que nous employons justement pour dire la sortie de soi qui permet d'entrer en contact avec le divin. Peur et espérance sont ici intimement mêlés, comme toujours lorsqu'on se trouve devant le mystère de la vie. Pensons aux parents devant le nouveau-né qui vient de sortir du ventre de sa mère. Ou bien lorsque nous sommes en présence de quelqu'un qui rend son dernier souffle. Est-ce à cause de ce complexe sentiment d'effroi, d'émoi, de joie que ces femmes vont se taire? Elles ne disent rien à personne. Elles ont peut-être besoin de reprendre leur souffle afin de développer leur confiance en cette nouvelle présence de Jésus.
Cette visite au tombeau est-elle la finale du récit de Marc?
Ces versets 1 à 8 terminent le récit rédigé par Marc. Certes, Nous avons une suite au récit avec les versets 9 à 20. Mais pratiquement tous les spécialistes pensent que ces versets 9-20 ne sont pas de Marc dont ils n'ont pas du tout le style. Ils sont rédigés comme une sorte de sommaire des apparitions du ressuscité. Un sommaire qui est fait à partir des autres récits évangéliques et auquel on a ajouté certains passages des Actes des Apôtres. Dans certains manuscrits de Marc, on trouve aussi une autre finale, beaucoup plus courte.
Elles racontèrent brièvement aux compagnons de Pierre ce qui leur avait été annoncé. Ensuite, Jésus fit porter par eux, de l'Orient jusqu'au couchant, la proclamation sacrée et incorruptible du salut éternel.
Certaines copies anciennes de Marc précisent même que le verset 8 marque la fin de l'Évangile. Eh bien, si le récit de Marc se termine au verset 8, il faut alors constater que Marc ne rapporterait pas d'apparition du ressuscité.
Que faut-il penser de cette absence de récit d'apparition?
Rappelons-nous d'abord qu'un récit évangélique n'est pas une chronique journalistique. Chaque récit a été forgé comme une catéchèse, répétée de bouche à oreille pendant de nombreuses années par le premier chrétien, avant d'être mise par écrit. Et cette catéchèse avait pour but de témoigner ce que les auditeurs de Jésus ont vu et entendu et qui les a conduits à la foi en sa résurrection. Aux nouveaux disciples qui n'auront pas vécu avec Jésus, la catéchèse veut transmettre ce que les témoins, c'est-à-dire les apôtres et quelques femmes disciples, ont réellement vécu avec le Maître. Si cet épisode de la visite au Jésus au tombeau termine vraiment le récit, on peut donc s'interroger sur le message que Marc veut nous transmettre. Ce message pourrait résider tout entier dans cette annonce « Il vous précède en Galilée ». Cette indication de la Galilée se trouve d'ailleurs dans les récits de Matthieu et de Jean. En Matthieu, c'est Jésus lui-même qui s'adresse aux femmes avec ce message.
« Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. »
En Jean, Jésus va se manifester aux disciples au bord du lac de Galilée. Ce lieu de la Galilée sera uni au message de l'universalité de la mission.
Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée. Jésus leur dit ces paroles, « Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. »
Jean raconte la pêche des disciples qui rassemblent 153 gros poissons dans leur filet. Au IVe siècle, l'exégète Jérôme rapportera que les naturalistes du temps de Jésus recensaient alors 153 espèces de poissons. Ce chiffre-là, 153, serait donc un symbole de la mission des disciples de Jésus. Le prototype du règne de Dieu qu'ils doivent bâtir ne sera plus limité au seul peuple juif, mais il sera fait de gens de toutes les nations. C'est dans toute l'humanité que les disciples de Jésus doivent maintenant chercher sa présence. Et c'est dans l'amour qu'on portera aux plus petits que cette présence se révélera invisiblement mais réellement. C'est sans doute ce que l'on peut tirer comme message de la parabole du jugement dernier dans le récit de Matthieu.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, devant lui seront rassemblées toutes les nations. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père. » Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Ce qui est fait au plus petit, donner un verre d'eau, visiter le malade, le prisonnier, ce sont là des gestes de la pure gratuité de l'amour. Alors c'est donc lorsqu'on aime gratuitement que l'on pourra voir le ressuscité, parce qu'on sera sur la longueur d'onde de l'amour, qui est la longueur d'onde divine, la longueur d'onde de la gratuité inconditionnelle. L'apparition de Jésus lui-même, dont ont été gratifiés les 11 et quelques femmes, n'est pas le mode normal de la présence actuelle du ressuscité. L'esprit du ressuscité se trouve maintenant dans le cœur de chaque disciple, lorsque ce disciple aime son prochain de la même manière que Jésus aime.
Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis.
Par notre lien avec Jésus ressuscité, nous pouvons être réellement en communion avec le divin. Pour vivre divinement dans l'amour, notre vie quotidienne avec ses joies, mais aussi avec ses épreuves et ses souffrances. C'est à ce niveau-là que Jésus se situe dans sa nouvelle présence dans le monde. Oh, celle-ci ne vise pas le spectaculaire. Il ne faut pas s'attendre à des apparitions éclatantes. C'est discrètement que son souffle d'amour, que son esprit veut vivre dans le cœur de chaque disciple pour permettre à ces humains blessés et angoissés que nous sommes de se relever en trouvant en lui la force de l'espérance. Le Christ ressuscité demeure le serviteur pauvre, et cela parce qu'il est toujours le serviteur tout aimant, parce qu'il est celui qui nous révèle l'amour véritable, cet amour qui ne peut loger que dans un cœur humble et vulnérable, comme le traduit ce texte de Jacques Guillet.
Jésus ressuscite et entre dans la gloire, et tout, pensons-nous, va changer. Pourtant, Jésus ressuscité n'apporte aux siens ni la fortune, ni même la moindre amélioration de leur genre de vie. Leur existence reproduira exactement celle qu'ils ont menée à sa suite, dans l'incertitude de l'accueil, à la merci de l'indifférence et de l'hostilité. Jésus ressuscité devrait, nous semble-t-il, imposer sa présence et conquérir ceux qui le défiaient de descendre de la croix. Jésus ressuscité ne s'impose pas plus que Jésus mortel. Il demeure le Christ pauvre de Bethléem et du Calvaire, celui qui a choisi pour amis les pauvres et les petits, et qui garde avec eux la même aisance familière, la même humanité simple. Les siens, ce sont toujours les pauvres, les malades, les prisonniers, ceux qui, durant sa vie, composaient son entourage habituel et qui demeurent jusqu'à la fin des siècles son prolongement personnel. Le Christ ressuscité, c'est toujours le pauvre, le laissé pour compte, qui nous embarrasse et que nous abandonnons sur le bord de la route.
Ce Christ ressuscité, toujours laissé pour compte, est-il encore présent dans les communautés de ceux qui se disent aujourd'hui ses disciples?
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 à 23h. Choix musical, enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, bon dimanche de Pâques, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.